Alors bonjour Patrick Fabre, vous étiez tranquillement sur votre stand de la Maison de la Transhumance sur la place du Mazel, je le rappelle, pour la fête de la Transhumance qui a lieu à Die, là, en ce moment même, année 2016. On vous a un peu dérangé, vous aviez de nombreux interlocuteurs, peut-être un peu moins avec la pluie qui vient de nous arriver sur le coin de la tête. Quel est l'objet de votre stand aujourd'hui ?
Nous présentons une partie de nos activités liées effectivement à la transhumance entre la Provence et les Alpes, et là plus particulièrement un ouvrage que nous venons de coéditer chez Actes Sud qui s'appelle Pasteur Paysage, pastoralisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui rejoint donc le thème de la fête de la transhumance de cette année.
Voilà, alors vous avez beaucoup de gens qui viennent visiter votre stand. Qu'est-ce qui revient souvent comme dialogue et comme thème récurrent des discussions qu'on vous propose ?
Souvent le thème du métier de berger ou bergère et de la formation. C'est vrai qu'on est installé sur le domaine du Maire, la Salon, où se trouve la plus ancienne école de bergers et bergères de France. Et les gens sont souvent surpris quand on leur dit que le berger, c'est un métier et qu'il y a des formations. Et formations auxquelles viennent de plus en plus les femmes, jeunes ou moins jeunes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse finalement les gens et qui les surprend souvent quand on leur dit que c'est un métier qui existe encore, qu'il y a des formations diplômantes qui permettent par la suite de travailler dans les troupeaux. Ça, c'est un vrai questionnement qui revient souvent quand on parle de transhumance et du coup derrière d'alpage et de travail de berger.
Alors oui, il faut vivre avec son temps. C'est un métier qui se transmettait avant dans les alpages entre gens qui, voilà, soit père et fils, enfin entre personnes directement par la pratique à l'oral. Et aujourd'hui, comme ça se fait pas forcément de cette façon-là, oui, des formations diplômantes, ça paraît logique. Mais tout le propos de cette fête de la transhumance, c'est effectivement de montrer que c'est un domaine qui existe encore et qui fait vivre des gens, qui est un maillon indispensable à la chaîne aujourd'hui de la consommation et de la production.
Oui, ça rejoint effectivement le propos que nous essayons de porter notamment au grand public et parfois au travers de faits de la transhumance comme celle-ci ici a dit aujourd'hui ou d'autres comme Saint-Rémy de Provence, Barcelonnette ou bien d'autres encore, c'est qu'effectivement ce sont des métiers qui derrière portent des économies, des produits, la viande, la laine, le fromage bien sûr, qui participent à l'économie des territoires et qui ont des retombées également intéressantes au niveau paysager, environnemental, patrimonial. Voilà, donc c'est de multifonctionnalité, même si le terme n'est pas joli, du pastoralisme dont on parle, souvent en direction du grand public. Voilà, le berger, c'est la jolie image dans les alpages, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses qui font vivre, notamment les territoires ruraux.
Et mis à part ce stand qui a lieu là sur la fête de la transhumance, comment vous transmettez les infos habituellement aux gens, au public ou aux professionnels ?
On a différents outils comme le stand effectivement ou bien sûr un site internet transhumance.org ou une lettre d'information que l'on trouve sur notre site. On réalise également des conférences, on a mis en place des sentiers de découverte, que ce soit au domaine du Merle ou en alpage. On a des malles pédagogiques, cette fois-ci plutôt à destination des enfants. On essaye d'avoir un panel d'outils de communication, d'animation en direction de la société, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, bien sûr. Et derrière, on a également d'autres éléments qui arrivent, comme un centre de ressources sur la transhumance où on va rassembler tous les fonds, archives, sons, images, photos, bien sûr, autour de la pratique de la transhumance en Méditerranée. Voilà. Donc nous sommes un lieu d'interprétation de cette pratique pastorale de la transhumance dans une dimension méditerranéenne. Et nous travaillons pour cela avec, par exemple, la Maison du Berger dans les Hautes-Alpes.
Oui, parce que là, du coup, la Maison de la Transhumance, est-ce que c'est quelque chose qui est national ? C'est une structure qu'on retrouve dans d'autres endroits, qui porte un autre nom, ou est-ce que vous êtes un réseau plus vaste ?
Nous sommes une association basée dans la plaine de la Croix, qui est un lieu emblématique de la grande transhumance. mais nous travaillons avec d'autres partenaires régionaux comme la Maison du Berger ou dans d'autres territoires comme la Maison des Alpages à Besse en Oisans, en Isère par exemple. Il y en a également qui existent en Savoie, dans les Pyrénées, ou ailleurs, en Italie, en Espagne. Donc on travaille en réseau dans une dimension la plus méditerranéenne possible. Voilà. Et après, notre principal territoire de travail, c'est quand même le grand sud-est de la France, entre Provence et Alpes au sens très large, hein, puisque nombreux de nos troupeaux aujourd'hui vont jusqu'au massif du Mont-Blanc. Par la transhumance, en camion bien sûr, aujourd'hui.
Votre activité, vous, à l'année, c'est quoi, Patrick ?
Alors, c'est un grand plaisir, déjà, je dois le dire. On a pas mal d'actions autour de réalisation de publications, d'expositions, de conférences. Nous développons également actuellement un projet un peu original, si je puis dire, autour de la valorisation de la laine, et principalement de laine mérinos d'Arles, puisque nous développons une gamme, depuis peu, de vêtements de marche, de randonnée, qu'on appelle vêtements techniques, en laine mérinos d'Arles, un petit peu comme cela se fait avec des laines d'Australie, de Nouvelle-Zélande, pour essayer bien sûr de mieux valoriser auprès des éleveurs cette laine qui est quand même la plus fine d'Europe, qui est la laine mérinos d'Arles. Donc aujourd'hui, par exemple, on est venu avec notre gamme de paires de chaussettes en laine mérinos d'Arles, avec différentes pointures, différentes couleurs. Voilà, c'est un projet que l'on lance, qu'on a lancé en partenariat avec les éleveurs, bien sûr, qui sont les principaux intéressés, et qui commence à séduire pas mal de gens par rapport à la question des circuits courts, de valorisation des produits locaux, avec une certaine éthique, un certain esprit. Voilà, on rentre un peu dans ce que recherche en tout cas une partie de la société d'aujourd'hui.
Et pour les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, la concurrence est rude. Comment on fait pour valoriser ces circuits courts et ces choses plus locales et des fois, il faut admettre, plus coûteuses ?
C'est vrai, plus coûteuses, effectivement. À partir du moment où on veut que le producteur soit mieux payé, ben, il faut s'y tenir. Et du coup, ça engendre effectivement un coût forcément un peu supérieur pour le consommateur. Après, nous, on essaye de jouer un petit peu les cartes de la qualité quand même, de l'éthique, d'un esprit dans lequel on travaille. Et puis, en essayant de valoriser ce qu'on disait tout à l'heure, des différentes dimensions du pastoralisme, de la transhumance, sur les retombées positives dans les territoires, voilà, autour du métier, du produit, des paysages. C'est tout ce discours-là pour que finalement les consommateurs, sans employer de grands mots, ce soit quelque part un acte un peu militant ou un peu citoyen, si l'on préfère, qu'ils fassent en achetant effectivement un produit, certes un peu plus cher, mais déjà de grande qualité, et qui derrière fait vivre pas mal de territoires, notamment ruraux.
Ça fait partie de la communication que vous faites dans les stands, ce genre de propos pour essayer de faire connaître et de faire comprendre aux gens comment fonctionnent ces réseaux plus courts ?
Oui, nous, de toute manière, au niveau des filières pastorales, ou notamment ovines, par exemple, on ne peut pas essayer d'imiter les produits standards qui sont réalisés par ailleurs. Le produit pastoral a une spécificité due à ses modes de production, à ses systèmes d'élevage. Et derrière, il faut qu'on s'en démarque. Voilà. Il y a différentes manières de s'en démarquer, et notamment en jouant sur cette question-là, hein, de l'identité territoriale, mais dans le bon sens du terme, et des bénéfices qu'en retire l'ensemble des citoyens d'un territoire. Voilà. C'est plutôt là-dessus qu'on joue, effectivement, pour se démarquer du standard qu'on va retrouver dans les grandes surfaces, par exemple. Nos produits en laine mérinos, par exemple, on ne les trouvera pas dans les grandes enseignes qu'on ne citera pas de ce registre de commerce, mais plutôt dans des enseignes plus éthiques ou équitables.
Vous devez être un amoureux du pastoralisme. Aujourd'hui, c'est un monde qui est, bon, voilà, on l'a dit déjà, un peu incompris, avec un manque de rapport aux consommateurs directs et aux gens qui sont en dehors de ces zones. Et finalement, ils représentent une majorité. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens pour justement mettre en valeur et puis encourager à la continuité de ce monde pastoral?
Oui, effectivement, Alors, dans nos régions, on va dire du grand sud-est français, on a la chance, et c'est ce qu'on dit souvent auprès du grand public, enfin de la société, d'avoir encore, malgré tout, malgré ce qu'on entend et qui est une réalité, un pastoralisme encore présent, actif, hein, et avec des jeunes qui s'installent, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Si on compare avec d'autres territoires méditerranéens, malheureusement, hein, si on parle de l'Espagne, de l'Italie ou d'autres encore, ce n'est pas le cas. Notre dynamique est meilleure. Donc ce qu'on essaye de dire aux gens, aux visiteurs de notre structure ou aussi aux élus, parce qu'on est là pour ça, c'est qu'on a la chance d'avoir des éleveurs pastoraux qui ont su perdurer dans le temps long de l'histoire, s'adapter un petit peu à tous les contextes et les politiques, qui parfois les dénonçaient comme étant archaïques ou arriérés même. Hein, donc les éleveurs pastoraux sont encore présents dans nos territoires, même si c'est moins le cas qu'avant. Donc aidons-les à se maintenir, à s'adapter, plutôt qu'à les condamner pour différentes raisons qui n'ont pas de lieu d'être. Voilà. Donc c'est une chance de les avoir encore avec nous, ils sont présents. Il y a des possibilités aujourd'hui, le vent est plutôt favorable par rapport à il y a 20 ou 30 ans, où on était plutôt dans une agriculture dite intensive, où il fallait produire pour produire. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc on est plus dans l'air du temps qu'il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, il y a quand même des difficultés qui perdurent, bien sûr, sur les prix des produits, sur la disparition des terres foncières, etc., etc., qu'il faut régler ensemble. Notre président, qui est un éleveur, a l'habitude de dire que si les éleveurs ou même les agriculteurs continuent à rester entre eux, ils n'iront pas bien loin. Par contre, s'ils s'appuient sur une partie de la société d'aujourd'hui qui s'intéresse à eux, là, il y aura plus de chance pour avoir un avenir commun.
Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La fête de la transhumance à 10 en est une belle représentation. Voilà comment on arrive à organiser tout ça avec des structures variées, le musée, le théâtre, les agriculteurs, et j'en oublie sans doute des tonnes. Voilà, l'ADEME, vous, les paysans, on va dire, dans leur globalité, quoi, qui sont là et à qui on peut donner, redonner leur lettre de noblesse. Merci beaucoup Patrick Fabre, donc je le rappelle, de la Maison de la Transhumance. Je vais vous laisser retourner sous la pluie, je suis confuse de ce temps, c'est pas moi qui le décide, mais voilà. Pour la suite du programme, on n'oublie pas que bientôt, dans les rues de Dives, vont défiler le troupeau, voilà, avec peut-être des animations supplémentaires, on n'en sait rien, et puis le spectacle de cirque, on ne sait pas où il aura lieu encore, mais en tout cas, voilà, restez à l'écoute, restez dans le centre-ville. Merci beaucoup Patrick.
Merci à vous.